Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Colline Brassard. J'ai fait ma thèse au Muséum d'histoire naturelle de Paris, donc sur l'étude de la variabilité morphologique des chiens avant l'âge du bronze en Europe. Donc, c'était un sujet qui m'a amené en fait à développer des outils méthodologiques pour donner un sens fonctionnel au reste osseux, en particulier la mandibule, et dépasser la simple description de forme. Donc, lors du développement de ces outils, j'ai eu recours à un référentiel de chiens constitués de races actuelles, ce qui m'a conduit à me poser certaines questions sur l'applicabilité de mes méthodes aux vestiges anciens. Donc dans mon cas, il s'agissait de chiens datant d'avant l'âge du bronze en Europe, mais bien sûr, cela concernait des chiens d'autres contextes archéologiques, voire les questions pourraient aussi s'étendre à d'autres matériels biologiques. Donc ces journées d'échange sur le thème des référentiels étaient donc le moment parfait pour partager avec vous ces questionnements. Donc dans ma présentation d'aujourd'hui, je vais d'abord préciser comment on peut interpréter en termes fonctionnels des variations de forme dans la mandibule de chien, donc les questions qui ont émergé aussi de la création de ces modèles. Et ensuite, je tenterai d'apporter des éléments de réponse ou au moins d'illustrations supplémentaires pour en appliquant en fait ces méthodes à mon objet d'étude, donc les chiens européens avant l'âge du bronze. Donc tout d'abord, revenons sur des bases d'anatomie fonctionnelle pour comprendre l'origine des modèles fonctionnels que j'ai créés. Donc la mandibule est bien sûr un bon objet d'étude parce qu'elle est très solide et bien représentée dans les séries archéologiques, mais aussi et surtout parce que c'est un élément fonctionnel majeur de l'appareil masticateur. Donc il est facile de s'en convaincre. Pour cela, il suffit de revenir à des notions d'anatomie fonctionnelle très élémentaires. Donc au sein de la tête, le crâne et la mandibule s'articulent et forment la charpente sur laquelle reposent les muscles masticateurs. Donc ces muscles prennent origine sur le crâne et s'insèrent sur la mandibule. Parmi ces muscles, on trouve le digastrique qui, lorsqu'il se contracte, permet d'ouvrir la mandibule et donc la gueule. Au contraire, les muscles temporomasséter et ptérygoïde médial sont des muscles adducteurs qui, en se contractant, permettent de remonter la mandibule et donc qui permettent à la gueule de se fermer. Chez les canidés, pardon, la plupart des mouvements sont verticaux grâce aux masséters et aux temporaux qui sont très développés. Mais des mouvements horizontaux sont aussi possibles dans une moindre mesure, notamment grâce au muscle ptérygoïde médial, qui se cache en position un petit peu plus médiale. Ces trois complexes musculaires participent à l'élévation de la mandibule et donc leur contraction permet la morsure. On peut quantifier la force de cette morsure grâce aux propriétés musculaires, on y reviendra un petit peu plus tard. Or, cette force de morsure est un indicateur fonctionnel majeur pour comprendre les chiens et qui est particulièrement important aussi pour interpréter les chiens dans le passé, puisque ça peut donner des indications sur des changements dans l'alimentation ou sur le mode d'acquisition des proies, par exemple, ou bien sur des sélections humaines sur la fonction, par exemple, pour voir si des chiens ont été, par exemple, sélectionnés pour protéger les groupes humains ou les troupeaux. Les structures musculaires et les os qui les supportent interagissent de façon à maintenir l'intégrité de l'appareil masticateur. Donc cela a été démontré chez de nombreuses espèces et on l'a aussi démontré chez le chien. Donc en d'autres termes, le développement des muscles et leurs propriétés mécaniques conditionnent, mais sont aussi conditionnés par l'architecture osseuse. Dans cette mesure, il est raisonnable de penser que la forme externe de la mandibule est indicatrice de la force de morsure qui peut être générée par l'animal. Peut-être même plus que le crâne, puisque celui-ci est impliqué dans de nombreuses autres fonctions qui sont liées à la protection des organes sensoriels. Un tel lien, du coup, permettrait de faire des inférences pour des spécimens archéologiques, même à partir de petits fragments de la mandibule. Mais comment quantifier et décrire ces relations pour faire des inférences? Eh bien, on peut estimer la force de morsure à partir de l'architecture musculaire, on en a déjà parlé un peu plus tôt. Donc, pour cela, il est nécessaire de procéder à des dissections des différents feuillets masticateurs, ce qui permet de connaître différents paramètres de l'architecture musculaire, comme la longueur des fibres ou leur orientation. Ce qui permet donc de connaître la force intrinsèque qui peut être développée par chaque muscle. Il est aussi nécessaire de connaître les points d'attache sur le crâne et la mandibule, ce qui permet de connaître l'orientation des forces exercées par les muscles. Donc ces données peuvent être utilisées ensuite pour estimer la force de morsure de façon assez précise grâce à un modèle biomécanique qui repose sur le principe des leviers. Mais pour connaître tout cela, il faut bien avoir des muscles à disséquer, donc ce qu'on ne trouvera pas dans le registre archéologique. Il faut donc partir de chiens actuels. Mais les chiens sont actuellement l'espèce de carnivore la plus morphologiquement variable du fait de la création récente des races, donc avec des types soit mésocéphales, bien sûr, soit dolichocéphales, donc très allongés, ou brachycéphales au contraire, donc ce qui témoigne particulièrement de cette variabilité exceptionnelle. Une variabilité qui était probablement d'ailleurs très différente dans le passé, mais dont on sait dont on sait souvent très peu de choses, et malheureusement pour le référentiel actuel, souvent on n'a pas vraiment le choix, donc on doit bien faire avec ce que l'on a. Donc c'est pour cette raison que durant ma thèse, j'ai été amenée à disséquer des chiens de races très variées, donc le plus possible, ce qui représentait 46 individus donc de races pour la plupart différentes, excepté une dizaine de beagles, donc qui est un type plutôt moyen, un peu modifié, en tout cas au niveau de la tête, et qui était peut-être sûrement plus à même de représenter, de correspondre à des spécimens avant la vie. Pour ces 46 chiens actuels, j'ai pu estimer la force de morsure grâce au modèle biomécanique dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Donc en utilisant les données musculaires obtenues par la dissection des muscles masticateurs. Ce modèle a prouvé son efficacité car on a comparé en fait les estimations avec des mesures in vivo qu'on a pu obtenir chez des Malinois actuels. Donc en parallèle de ces estimations, j'ai également étudié la forme de la mandibule en 3D, donc en faisant des reconstructions par photogrammétrie et en utilisant la morphométrie géométrique. Donc l'objectif ensuite, c'était d'étudier la qualité et la force de ces relations entre la force de morsure et la forme mandibulaire, donc en utilisant des analyses multivariées de covariation. Donc dans le cadre de ces analyses, on obtient un graphique qui va mettre en relation directement les déformations de la mandibule qui sont associées à des variations dans la force de morsure. Donc voilà les résultats qu'on obtient sur les 46 chiens que j'ai disséqués, dont les beagles en vert. Donc on voit qu'ils se placent tous sur une droite, dont le coefficient de covariation est très élevé, une relation très forte entre la force de morsure et la forme mandibulaire. Donc ainsi, si on se place sur cette droite, on peut suivre les déformations de la mandibule qui sont liées à une augmentation de la force de morsure. Par exemple, si on se place en bas à gauche de la droite, on aura des formes plutôt dolicocéphales, associées à des mandibules droites et fines avec des reliefs d'insertion musculaire peu prononcés, ce qui sera associé à des forces de morsure faibles. Au contraire, en haut à droite de la droite, on aura des une forme brachycéphale, donc avec des mandibules courtes, arquées, robustes, avec des reliefs d'insertion musculaire très développés, et ce qui sera associé à des forces de morsure élevées. Donc ainsi, pour n'importe quelle mandibule, forme de mandibule qui se trouve sur cet axe, grâce à cette droite, on peut retrouver la force de morsure idéale qui est associée en fonction du modèle. Donc on pourrait estimer finalement la force de morsure de n'importe quel individu archéologique. Mais n'y a-t-il pas des limites à l'application de cette méthode prédictive? En effet, comme on l'a déjà évoqué, les chiens de race actuelle ne sont peut-être pas adaptés pour étudier des chiens anciens qui étaient soumis à des contraintes moins artificielles et qui étaient peut-être moins variables, voire qui n'étaient pas dans le même espace morphologique. Donc, dans ce cas-là, on aurait quand même des problèmes à transposer des règles de décision dans un autre espace morphologique que celui dans lequel les règles ont été construites. Un autre problème qu'on soulèvera en dernier, c'est les liens, donc l'intégration entre la forme et fonction, qui ont pu changer du fait des sélections artificielles drastiques récentes, alors que les chiens passés étaient soumis à des contraintes plus naturelles. Donc pour cela, pour l'instant, tout ça paraît un peu flou. Donc pour rendre plus concret ces problèmes, je vais vous les exposer en voyant ce qui se passe quand on applique le modèle prédictif à des chiens avant l'âge du bronze en Europe. Donc dans le cadre de ma thèse, je me suis concentrée sur la période qui était bien après la domestication, entre le mésolithique et le tout début de l'âge du bronze en Europe. Donc c'est une période de changement majeur dans les sociétés humaines qui a aussi eu des répercussions sur les chiens qui étaient alors très intégrés au groupe humain, donc avec notamment le développement de l'agriculture. Donc d'ailleurs, des études génétiques ont montré que les chiens ont développé la capacité à digérer l'amidon pendant cette période. Donc il est possible que le changement de régime alimentaire des chiens ou des stratégies d'acquisition, donc avec par exemple un accès facilité à des ressources alimentaires plus préparé, plus molle, plus riche en amidon, plus facile à mastiquer, c'est possible que ça ait eu un impact sur les capacités masticatrices. Donc, par exemple, on pourrait s'attendre à avoir une diminution de la force de morsure au cours du temps. Donc, d'où l'intérêt d'appliquer les modèles que j'ai établis. Donc, dans ma thèse, j'avais collecté plus de 500 mandibules d'Europe de l'Ouest et du Sud de la Roumanie, donc ce qui représente un échantillon entre 7500 et 3000 avant Jésus-Christ environ. Donc bien sûr, toutes les mandibules n'étaient pas complètes, donc j'ai dû utiliser plusieurs patrons de fragmentation, mais aujourd'hui on va se concentrer seulement sur deux. Donc d'abord les mandibules complètes parce qu'elles sont les plus respectueuses de la forme, même si ça représente un échantillon qui est assez petit, et surtout les mandibules complètes donc, sont très liées à la force de morsure, et aussi le fragment le plus petit, donc qui lui est peut-être un peu moins lié à la force de morsure, mais qui permet de représenter un grand nombre d'ossements, plus quasiment les 500 en fait que j'ai étudiés. Donc à partir de ces deux patrons, j'ai essayé de prendre la force de morsure des chiens à l'aide des modèles PLS établis sur l'actuel. Mais du coup, pour appliquer ces modèles, donc comme on questionnait cela un peu avant, il faut avoir une idée en fait de la variabilité de ces chiens dans le passé. Et pour l'instant, enfin avant ma thèse, on n'en savait pas grand-chose puisque les données disponibles étaient assez dispersées, et les analyses de forme étaient souvent peu poussées, se limitant souvent à des estimations de hauteur au garrot. Donc même si les chiens sont, d'après la biblio, déjà bien différenciés des loups, il était fort à parier qu'on ait une variabilité bien moindre que chez les chiens modernes, mais encore fallait-il le prouver. Donc la première étape de mon travail, c'était de situer les chiens anciens par rapport aux chiens modernes. Donc pour cela, on va se concentrer d'abord sur les résultats que j'ai obtenus avec les mandibules complètes. Donc on va visualiser les espaces morphologiques sur des analyses en composantes principales. Pour ceux qui ne sont pas familiers de ces analyses, donc plus l'objectif c'est de résumer la variabilité totale du jeu de données sur les deux premiers axes. Donc plus deux points sont proches et plus les formes se ressemblent. Donc voilà ce qu'on obtient quand on projette les 46 chiens modernes que j'ai disséqués, donc en blanc, dont les beagles en vert, et les spécimens archéologiques complets. Donc on observe déjà deux choses. D'abord que des chiens archéologiques semblent dépassés de la variabilité de notre échantillon moderne, et ensuite que certains spécimens modernes semblent ne pas avoir d'équivalent dans l'échantillon archéologique. Donc quand on regarde un peu plus précisément la répartition de ces races qui sortent de l'espace morphologique des archéologiques, on se rend compte surtout que ce sont des chiens très brachycéphales qui semblent sans équivalent dans l'échantillon archéologique. Donc malheureusement, ces ACP, elles ne donnent une idée qu'une partie de la variabilité dans la forme de la mandibule, donc dans notre cas ici que 37%. Donc j'ai utilisé d'autres types d'analyses, des classifications ascendantes hiérarchiques, qui elles permettent de représenter en fait sur un arbre le degré de ressemblance des chiens en prenant en compte la totalité des informations de conformation. Et sur cet arbre encore, on voit que les chiens très brachycéphales sont sur une branche qui est très séparée, alors que les autres chiens modernes sont à se fondre au milieu des chiens archéologiques. Donc on s'est demandé en fait s'il n'était pas plus judicieux de supprimer ces chiens très brachycéphales pour la construction du modèle de prédiction de la force de morsure, puisqu'ils pourraient entraîner le modèle dans une gamme de variabilité qu'on ne va pas utiliser. Donc si on fait les mêmes tests sur des petits fragments de mandibules, cette fois-ci les espaces morphologiques se superposent bien mieux. Donc ce n'est pas lié au fait qu'on ait plus d'individus archéologiques, puisqu'au contraire, on aurait plus de chances d'avoir des formes sans équivalent dans l'échantillon actuel, qui est plus réduit. D'ailleurs, on obtient sensiblement le même graphique si on prenait en compte que les 127 spécimens avec des mandibules complètes. Donc en fait, ce résultat-là tient plutôt à la forme très réduite du fragment, et les chiens brachycéphales donc, ne ressortent plus. Donc d'ailleurs, même si on les enlève, le graphique ne change pas vraiment. Donc finalement, on observe que des espaces morphologiques diffèrent pour les mandibules complexes, mais pas pour les petits fragments. Du coup, une autre question qui a émergé, c'était bah, que faire? Faut-il changer de stratégie pour la construction des règles de décision en fonction du fragment? Donc par exemple, dans le cas des mandibules complexes, fallait-il n'utiliser que des spécimens dans la variabilité des archéos et supprimer les autres? Ou au contraire, valait-il mieux maximiser la variabilité, quitte à pousser le modèle en dehors de la gamme de variabilité d'application? Mais si ce n'était pas tant la variabilité de la forme totale qui importait, mais plutôt la variabilité de la partie de la forme qui peut servir à déterminer la force de morsure. Donc pour expliquer ça un petit peu mieux, on avait vu sur les régressions PLS établies à partir des 46 chiens actuels disséqués que c'était ces variations de forme-là qui importaient pour déterminer la force de morsure. Donc ce qui ne représente qu'une partie de la variabilité totale de la forme. Donc, en d'autres termes, il faudrait connaître la position des chiens archéologiques sur cet axe PLS, sur cette portion de la mandibule qui varie avec la force de morsure. Donc ça, c'est facile à obtenir puisqu'on sait comment la PLS a été construite grâce au vecteur propre. Donc on peut prédire les coordonnées sur l'axe PLS à partir des données de la forme totale. Donc voilà ce qu'on obtenait pour les mandibules complètes. Donc les chiens archéologiques sont projetés en orange et on voit qu'ils sont inclus dans l'espace de covariabilité des actuels. Donc en d'autres termes, le modèle est suffisant pour tous les chiens archéologiques avec des mandibules complètes, puisqu'on n'aura qu'à intrapoler. Donc que se passe-t-il si on enlève les chiens les plus brachycéphales cette fois-ci? Eh bien, on observe qu'une partie des chiens archéologiques s'étend en dehors de l'espace de covariabilité des chiens actuels. Donc il faudra dans ce cas-là extrapoler en dehors des limites du modèle, ce qui risque de poser des problèmes. Donc finalement, ce modèle réduit, avec un échantillon réduit, paraît moins adapté. Et on obtient exactement la même chose si on fait des analyses, cette fois-ci avec le petit fragment mandibulaire. Donc il semble qu'il vaudrait mieux garder la totalité de l'échantillon de référence pour éviter d'avoir à extrapoler en dehors des règles de décision du modèle. Donc ça, c'était une partie des questions que j'avais posées au tout début. La deuxième question plus rapide, c'était la possibilité que les relations morpho-fonctionnelles au sein de l'appareil masticateur aient changé du fait que les chiens actuels sont soumis à des contraintes artificielles très éloignées des contraintes naturelles auxquelles étaient soumis les chiens dans le passé. Donc, malheureusement, dans le registre archéologique, on n'a pas de muscles à disséquer. Les crânes complets sont extrêmement rares, puisqu'ils sont généralement très abîmés et peu nombreux, et il ne reste alors que la mandibule. Donc l'idée que j'avais eue, c'était de comparer l'éco-variation entre la forme de la partie arrière et de la partie avant de la mandibule entre les chiens actuels et les chiens dans le passé. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, donc pour ça, on fait des tests de modularité, et ce qui est ressorti, c'est que les chiens archéologiques avaient une mandibule plus modulaire, donc moins intégrée, donc des relations moins fortes entre l'arrière et l'avant de la mandibule, que chez les chiens modernes, ou voire même que chez des renards modernes qui sont soumis à un mode de vie quand même plus naturel. Donc sans qu'on comprenne trop l'origine de cette différence, ça pose quand même question, puisqu'il semblerait qu'on n'ait pas les mêmes relations internes au sein de la mandibule, rien qu'entre la partie postérieure et antérieure. Donc il est possible aussi qu'on ait des relations différentes avec le crâne, voire avec les muscles masticateurs et donc la force de morsure. Donc il est possible que c'est le modèle qu'on a établi soit interprété quand même avec précaution en l'appliquant aux chiens avant l'âge de bronze. Donc bien que le développement d'outils prédictifs basés sur un référentiel actuel soulève des questions essentielles sur l'applicabilité de ces méthodes à un échantillon ancien et que la réponse à ces questions est loin d'être évidente. Donc on est aussi assez contraint dans la construction des référentiels, puisqu'on fait avec ce qu'on a, mais du coup, il me semble absolument crucial d'explorer et d'accepter les limites du modèle et de limiter nos interprétations archéologiques en fonction, voire d'envisager des pistes d'amélioration. Donc par exemple, moi, dans le cadre de mon modèle, la grosse faiblesse, c'était que je n'avais pas de chiens peu sélectionnés avec un mode de vie plus commensal, donc par exemple des chiens errants typiques de l'Afrique du Nord. Donc c'est pourquoi depuis ma thèse, j'essaie de compléter en fait mon référentiel avec de tels spécimens pour voir s'il ne serait pas de meilleurs modèles, donc soit seul, soit en complément des chiens de race pour étudier les chiens dans le passé. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et je serai ravie d'échanger avec vous sur ces problèmes parfois frustrants, certes, mais tout de même assez passionnants. Merci beaucoup.